Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
18h01 sur les ondes de Radio Campus Angers, bonsoir. Peut-être qu'on m'entendra mieux comme ça. 18h01 sur les ondes de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du Pédalo. La saison des festivals continue sur les ondes du Centre FM et dans toute la région de notre belle région de l'Anjou. Cette fois, direction les Mauges. Alors pas du tout l'Anjou, enfin presque. Presque. Le festival du Fond dans les Granges vous propose 5 week-ends de musique, de festivités, et on parle de blues, de soul, de flamenco, de jazz manouche, et j'en passe. Évidemment, tout ça, c'est au programme jusqu'au 26 août, jusqu'au week-end du 25-26 août. On vous présente le programme du festival avec Manon Lebrun et Benoît Lebrun. Père et fille sont dans nos studios. Les deux, voilà, vous travaillez ensemble, voilà, pour préparer le festival, quoi.
Complètement.
L'équipe de programmation, d'organisation.
Voilà.
Voilà,
on
okay.
est trois, il y a Jérôme Bimier qui n'est pas là aujourd'hui.
Qui est un des cofondateurs aussi avec vous.
Voilà, on est tous les trois à œuvrer là-dedans.
On ira également faire un tour du côté de la Frappe avec nos voisins de la Corlab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Cet été, nous vous faisons découvrir les lauréats des Bravos. Les Bravos, ce sont des trophées imaginés par le collectif des festivals bretons, le réseau Éco-événements et le pôle des musiques actuelles des Pays de la Loire pour valoriser les engagements des festivals dans les transitions écologiques et sociales. Un programme chargé aujourd'hui dans le pédalo. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo met les voiles. Et avec nous donc dans les studios Manon Lebrun, bonsoir.
Bonsoir.
Benoît Lebrun, bonsoir.
Bonsoir.
Du Foin dans les Granges, c'est un festival qui se passe, accrochez-vous bien, sur 4 mois. Ouais, ça a commencé dès le 13 mai dernier au Ménil-en-Vallée et ça se termine les 25 et 26 août au château de la Barre à Saint-Laurent-du-Motay. Avec nous, donc dans les studios, les deux voilà, organisateurs, deux des trois organisateurs, co-créateurs, enfin vraiment, vous êtes multicasquettes du festival. Au programme, donc 18 concerts et spectacles en tout genre, des ateliers artistiques, des expositions. Festival sur 4 mois, ça va, vous y êtes pas les de main morte?
Ah, effectivement, ça tire un peu. Pas simple, mais un joli challenge.
Oui, c'est clair, un challenge quand même. Parce que pourquoi vous n'avez pas décidé de tout regrouper, par exemple, sur une semaine ou sur 4 week-ends d'affilée?
Bah, dans l'idée, c'était de créer une saison estivale, puisque toutes les programmations sont terminées à partir de fin juin. Nous, on se disait, bah voilà, on a des envies de pouvoir proposer au public rural entre guillemets, mais parce que c'est pas que rural, mais on invite évidemment tout le monde, mais de se retrouver dans des milieux un peu plus pauvres culturellement, pour proposer tout un panel d'artistes sur l'ensemble de l'été à partir du mois de mai et comme ça tous les mois. Un rendez-vous annuel.
Mmh. Et donc là, c'est la 4e édition.
Oui.
Et ça s'est bien passé, là, les deux premiers week-ends, enfin celui de mai et celui de juin.
Et le 3 premiers.
Et les 3 premiers, ouais. Oui, pardon. Oui, carrément.
Il y avait le 3e le 7 juillet dernier.
7 juillet dernier.
À Écuyer, ouais. Oui. Et bien, oui, ça s'est plutôt très bien passé. La météo, on a jonglé entre les nuages et le soleil, mais on était sous une bonne étoile et tout s'est bien passé. On n'a plus tout réalisé.
Vous avez plus tout réalisé.
Voilà, c'est un lapsus. Non, on a frôlé la cata le 7 juillet, où on est passé entre les gouttes, mais tout est passé. Donc c'est génial.
Ça va, les gens sont en rendez-vous. Vous sentez qu'il y a un vrai besoin de ces territoires ruraux d'avoir comme ça des propositions culturelles un peu innovantes, différentes, ce que vous essayez de proposer?
Ouais, ça va quand même. Puis de plus en plus, il y a pas mal de gens qu'on a vu certaines années qu'on voit revenir et re-revenir. Donc c'est très chouette. Même pour la première soirée, le premier week-end qu'on a fait dans le nouveau lieu de la Pointe de Bushmen, c'était vraiment une découverte parce qu'on arrivait pour la première fois, pour la première édition dans ce lieu-là. Et il y a quand même eu pas mal de monde. Donc malgré tout, on est content. Ça monte tranquillement.
En progression constante, donc voilà. C'est plutôt rassurant. Et c'est vrai que de voir les gens revenir et puis d'être fidèles de plus en plus. Donc, et on voit que ça s'élargit au niveau du public aussi. Donc
oui,
ça,
il y a une sorte de communauté qui s'est créée autour du festival.
Oui, un petit peu, on peut dire ça.
Ouais. Ouais. Mmh, mmh. Ouais. Ah, ouais, ouais.
Même, au niveau des bénévoles aussi, on le ressent, ouais. Au niveau des gens qui s'investissent de plus en plus. Donc, pour nous, c'est énorme et c'est rassurant et c'est confiant, quoi.
Ouais, je parle de communauté parce que cette année, je ne sais pas si c'était le cas les années précédentes, mais en tout cas, ça m'a étonné là. Vous étiez dans le jardin d'un particulier pour organiser des concerts.
Ah, c'est depuis 4 ans.
Ah, depuis 4 ans.
Tous les rendez-vous.
Ah oui,
ouais,
d'accord.
C'est aussi la spécificité
c'est
du...
C'est que vous allez chez les gens, vous allez les inviter même chez vous.
Oui.
Ouais, ça a commencé.
Ça a commencé comme ça. Il y a plusieurs, même avant le début du festival, on ne l'appelait pas Festival du Foin dans les Granges, mais c'était, on avait une réunion tous les ans, ça a duré 2 ans, où on faisait ça chez moi notamment, un espace qui le permet dans une grange, et puis on avait un rendez-vous qui était plutôt sympa.
Ouais.
Donc on est parti de là pour essayer de le développer, et puis créer ce qu'il y a aujourd'hui.
Donc du foin dans les granges, c'est plutôt de la musique dans les granges au milieu des bottes de foin, en fait.
Il peut y avoir des bottes de foin, disons qu'on en amène, mais il n'y en a plus en général. On fait le foin dedans, en tous les cas.
Oui. Et c'est toujours en usage? Ou vraiment maintenant, c'est une grange qui est exclusivement dédiée à l'organisation du festival?
Ah non, ouais, quand elles sont dispo et que le temps n'est pas beau, elles sont d'usage. Sinon, on aime bien faire de l'extérieur. Mais...
Oui, complètement.
Non, on les investit aussi encore.
Donc, les lieux, c'est quand même une vraie marque de fabrique. Donc, vous êtes aussi dans des champs, directement dans les champs, mais même dans un château, un château de la Barre.
Mmh. Oui, alors le château de la Barre, il a une particularité, c'est pour nous, en tous les cas, habitants à Saint-Laurent-du-Motès, c'est le lieu, c'est un château qui est situé en plein milieu du village, avec un magnifique parc, mais que les gens, il n'y a jamais eu accès. Donc c'était un château un petit peu fantôme, et là depuis, donc c'est la troisième année, oui c'est ça, c'est la troisième année qu'on va le plaisir et... De proposer le final du festival là-bas. Et il y a une grande curiosité de la part des gens de Saint-Laurent, c'est parce qu'ils n'avaient jamais mis les pieds dedans, donc pour eux, c'est assez magique. Et c'est un lieu qui, en plus, qui est superbe.
Et au niveau de l'acoustique?
On est en extérieur.
Donc voilà, rien de...
Ah, alors là, c'est top, parce qu'on a des arbres tout autour. On essaye de créer une petite agora, avec tout ce qui va toucher des expos autour, les food trucks, les spectacles de rue, parce qu'il y a un petit peu aussi de... Il n'y a pas que de la musique,
on y viendra juste après. Mais d'ailleurs, parlons un peu de la musique avant de parler de tout le reste. Donc, des concerts avec des styles divers et variés, hein, je le disais tout à l'heure, on part du swing manouche, on va jusqu'au rock celtique, de la pop, de l'électro, du latin blues. C'est quoi la ligne directrice comment est-ce que vous pensez cette programmation musicale?
Alors justement, quand tu parles de diversité, d'éclectisme, c'est un petit peu la ligne directrice. Alors c'est paradoxal, mais c'est quand même ce qu'on a voulu défendre. C'est, nous, au départ, on est plus dans une ADN de jazz, musique du monde, dans tout le travail de création qu'on fait avec les artistes qu'on accompagne. Mais on n'avait pas envie d'en faire un festival de jazz, pour plusieurs raisons. D'abord, on aime beaucoup que les publics puissent se croiser. Donc ça, c'est important. Et pour ça, c'est important de pouvoir amener de la diversité. Donc et ça marche, et c'est assez génial de pouvoir rencontrer des gens qui n'écoutent pas du tout un style avec un autre, avec d'autres publics qui se rencontrent pour une première fois et ça permet des rapports sociaux qui sont plutôt sympas, quoi.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que finalement c'est pas aussi l'intérêt d'avoir une programmation éclectique, c'est que ça permet de croiser les générations et les milieux sociaux?
Complètement.
Ouais, absolument, ouais. Mais c'est vrai que c'est ce qui se passe, c'est ça qui est chouette.
Ils viennent d'où, les personnes qui viennent au festival du Foin dans les Granges? Ils viennent d'Angers principalement, ou plutôt des Mauges?
Non, il y a, je dirais, une bonne partie des Mauges, mais de plus en plus de Cholet, Angers.
Il y a un peu d'Angevin quand même, parce qu'on fait quand même deux dates autour d'Angers aussi maintenant.
Oui, c'est vrai que les Angevins sont quand même assez présents de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on commence à remarquer des gens qui viennent de Châteaubriant, Segré, Nantes... Cholet, donc ça s'élargit petit à petit. Ça, c'est en fonction de la programmation. Il y a des gens qui viennent aussi par oui dire, et puis ou par choix de vouloir voir un artiste particulièrement. Mais ça commence à la curiosité. Je pense qu'elle commence à faire son petit effet de bouche à oreille et ça commence à venir. Donc on est plutôt confiant, même si c'est pas assez rapide à notre goût. Mais voilà. Ouais.
On parle régulièrement ici sur les ondes de Radio Campus Angers des cachets des artistes qui ne font que croître et les prix qui s'envolent. Vous, comment est-ce qu'en tant que petit festival indépendant, petits festivals indépendants, j'insiste, vous arrivez pour travailler avec les artistes en bonne intelligence et pour leur faire comprendre que vous ne pouvez pas forcément vous aligner sur les prix pratiqués par les plus gros festivals de la région.
Ah bah là, c'est clair. Là, au niveau économique, de toute façon, on serait incapable de prendre des productions trop onéreuses. Mmh. On ne pourrait pas. Alors,
vous avez quand même des têtes d'affiche intéressantes. Hein.
Oui, oui. Mais en général, qui joue le jeu. Nous,
Vous leur demandez de jouer le jeu.
Ouais. C'est assez simple. En général, tout le monde est au même tarot. On essaye d'aligner les cachets pour tout le monde, y compris les techniciens. C'est un fonctionnement qui est peut-être un peu particulier, mais qui fonctionne bien parce que les gens jouent le jeu. Il y a jamais personne qui a refusé le montant du cachet. On n'est pas ridicule non plus. Ça correspond à ce qui se fait aujourd'hui quand on tourne, nous, en tant qu'artistes. On aimerait bien pouvoir proposer plus, mais là, on a une économie, on essaye de se tenir dedans. Et honnêtement, personne ne se plaint. Mmh. Donc, après, c'est vrai
que... un peu quand même.
Ah non, j'allais dire même l'inverse.
Ah ouais.
Il y a beaucoup qui sont contents de venir à ce tarif-là, je ne sais pas. Parce que, enfin, voilà, soit un tarif oui basique, mais aussi pour l'accueil qu'on leur apporte une fois sur site. On essaie de les accueillir au mieux. Mmh. Techniquement, restauration, hébergement et puis ambiance, enfin voilà, il passe quand même un bon moment en plus autour de ça, donc il n'y a pas de...
Non, je crois qu'il y a moyen quand même de travailler en bonne intelligence avec les artistes et ça fonctionne bien, hein. Là il n'y a pas de souci.
Les 28 et 29 juillet, donc ça se passe à Saint-Laurent-du-Motay et vous allez proposer un hommage à Django Reinhardt. Et heureusement que tout le monde a accepté de travailler en bonne intelligence parce qu'il y aura du monde ce week-end-là. Il y aura plus de musiciens sur scène en même temps, il y aura un quintet, enfin voilà, ça va swinguer.
Ça va swinguer, oui, j'en suis persuadé,
voilà, donc,
on s'en réjouit.
Vous proposez un hommage à Django Reinhardt, légende du jazz manouche, dont on célèbre cette année le 70e anniversaire de sa mort. Vous accueillez notamment le Off Swing Quintet, qui reprend en version jazz manouche des grands classiques de l'opéra.
Oui. Alors il y avait Alania.
C'est étonnant, ça.
Eh bien oui. Alors c'était une rencontre au départ entre le quartet Off Swing Quintet, c'est quatre musiciens de la Philharmonique de Paris, donc c'est quand même des musiciens de renom et de haut niveau. Il y a eu une rencontre avec Sammy Dossa, qui est lui un aficionado du jazz manouche, ouais. Et quand même qui est très reconnu là-dedans. Et ils ont
programmé en deuxième partie de soirée. Hein.
Voilà, oui. Qui est programmé en exactement. Mais il va faire les deux.
Lui. Ah,
il accompagne le quintet aussi.
Ah, lui, d'accord. Il va abuser ce soir-là. Ah, ouais. Il va se taper les deux concerts. Donc c'est vrai que Alania, il a mis une petite dédicace pour cet album. C'était quand le jazz manouche s'invite à l'opéra. Donc c'était quelque chose un petit peu insolite, mais ça marche vachement bien. C'est des musiciens magnifiques qui sont en plus drôles humainement, qui sont très chouettes. Hmm.
La soirée continue ensuite avec 10 musiciens et musiciennes, une musicienne présente sur scène, toujours en hommage, deux musiciennes présentes sur scène, toujours en hommage à Django. J'en ai compté une, en fait il y en a deux. Ceci étant dit, comment est-ce que vous travaillez sur ces questions autour de la parité? Je sais quand on est des petits festivals comme ça, c'est toujours des enjeux un peu compliqués. Comment est-ce que vous saisissez de ces sujets qui sont indispensables aujourd'hui?
Eh bien, oui, de plus en plus. Donc, ça se fait un peu avant, après, pendant. C'est pas tout de suite une contrainte qu'on s'inflige. C'est-à-dire que c'est très compliqué de faire une programmation. Ça prend quand même beaucoup de temps. Il y a beaucoup de recherches. Il y a beaucoup de choses qu'on veut placer. Il faut faire déjà un gros tri. Et en plus, au-delà de ça, une fois qu'il y a quand même une partie ou une grande base de fêtes, c'est vrai qu'on essaie quand même de regarder, au final, combien d'artistes féminines, masculins, combien d'artistes présents, et voir s'il y a à peu près de la parité. Et s'il n'y en a pas, enfin, on est aussi content d'aller chercher ailleurs, dans d'autres univers, pour essayer d'équilibrer tout ça.
Oui, vous rééquilibrez la programmation ensuite?
Mais
On essaye
d'y venir, ouais. C'est quelque chose auquel on fait quand même très attention.
Bon, on n'est pas encore dans la parité,
pour être
tout à fait honnête, oui. Mais c'est vrai que cette année, par exemple, la soirée chez à Écuyer, les deux têtes d'affiche, c'était des femmes. Donc, oui. Alors, il n'y a pas que des femmes dans la formation, mais en tous les cas, les deux artistes principaux étaient des femmes. Et honnêtement, ça se fait un peu par hasard, quoi. On ne cherche pas, comme disait Manon tout à l'heure, à se dire, bon, il faut qu'il y ait autant,
absolument
autant.
Mais...
On essaye d'établir déjà la charte, on va dire. Et puis ensuite, on essaye de rectifier un petit peu le tir, parce qu'effectivement, s'il y a... Faut y être très, très attaché. Ouais. Il faut faire gaffe, effectivement. C'est important, en plus. Et c'est intéressant, aussi.
Oui. Il y aura donc 10 musiciens et musiciennes le 28 au soir sur scène qui vont rendre hommage à Django Reinhardt. Je vous ai prévenu avant qu'on prenne l'antenne, je vous la pose maintenant cette question. Est-ce que vous pourriez nous raconter, vous avez quand même consacré un week-end entier à Django Reinhardt, quelle est votre relation à vous personnellement, intime, peut-être même des souvenirs père-fille avec Django Reinhardt? Je vous pose la question parce que moi j'en ai un et je voulais juste vous faire écouter un extrait de ce morceau avec lequel, enfin, Django Reinhardt a collaboré sur un projet de Ray Ventura en 1938. Je vous fais écouter l'extrait, petit blind test dans l'assemblée.
C'est la musique d'un Disney.
C'est la musique d'un Disney.
C'est la musique
de... C'est fait en travaillant.
Ouais, c'est Cendrillon ou quelque chose.
Non, c'est Blanche-Neige.
Blanche-Neige.
C'est les petits nains qui rentrent de la mine sifflet en travaillant.
Ah, mais
ça, je savais pas, moi.
Ah, non plus.
Je ne savais pas que Django avait collaboré là-dessus.
Alors, il n'a pas collaboré, c'est vraiment une reprise du morceau écrit pour Walt Disney.
Si votre ardeur devient tiède, gaiement, allez-y d'un petit air.
Et oui, mais en même temps, ça ne m'étonne pas, parce que Django, c'est aussi une musique très populaire. C'est ce qu'on disait ce matin, parce qu'on était en conférence de presse. Django, c'est le jazz français. Et c'est issu au départ d'une musique à danser. C'est quelqu'un qui aimait, justement, c'était une époque aussi, 1930, c'était une époque où on aimait danser et il est parti de ça. C'était une musique populaire. Donc le jazz français, ce qu'on appelle le jazz manouche, c'est issu cette envie de danser, de fêter, quoi. Et ce côté entraînant, tout ça, c'est très lié. Donc ça m'étonne pas, ouais, effectivement.
Mais... Et donc voilà, et vous, alors, voilà, il y a cette reprise qui pour moi est, voilà, qui, mon père m'avait fait découvrir ça à l'âge où, voilà, j'étais en train de regarder pour la première fois Blanche-Neige, il me dit, ah, tiens, écoute, et tout, j'ai ça sur mon CD, et bam, il met ce morceau de Ray Ventura. Donc voilà, après, il m'explique Django Reinhardt, son nombre de doigts un peu parti. Voilà, il lui manquait deux doigts, Django Reinhardt. Oui. Vous, c'est quoi vos souvenirs? Est-ce que vous avez comme ça des souvenirs marquants avec cette légende, hein, de la musique et du jazz manouche?
Alors, ce qui me concerne, moi, c'est très important pour moi parce que je suis musicien. Et pour moi, je vais te dire tout de suite, c'est Charcot, Sunday of Swing. C'est la formation dans laquelle on évolue avec Fred de Charcot et Anton Weiss. On travaille sur des compositions aussi, mais toujours à base d'un esprit de swing manouche. Donc ça parle beaucoup parce que ça fait 20-25 ans qu'on tourne avec ce répertoire. Donc forcément, ça résonne en nous. Voilà.
En deuxième, la deuxième journée de ce week-end des 28 et 29 juillet, on reste dans l'univers de la guitare acoustique avec Jean-Paul Albert, qui a été programmé par notre programmateur Étienne Devèche sur les ondes de campus pendant d'assez longs mois. En deuxième partie de soirée, Réunion de Flamenca. Incroyable. Alors ça, voilà, vous servez des influences de jazz manouche et du flamenco qui sont évidemment intrinsèquement liées, hein, oui, pour proposer, voilà, une soirée totalement dédiée à la guitare acoustique.
Eh bien oui.
Et au cajon, et à la danse, et à las palmas.
Voilà. Après, c'est aussi une histoire de personnes. C'est des gens, on connaît quand même pas mal de monde. Et c'est vrai que ce week-end, on trouvait qu'il y avait une cohérence entre le swing manouche et le flamenco. Il y a, dans l'essence même de ces deux musiques, ou de ces deux cultures, on peut dire, hein, il y a des croisements qui sont énormes. Donc, et puis... Le croisement des gens avec lesquels on travaille, là, notamment pour Réunion Flamenca, pardon, c'est avec Juan Manuel Cortés, qui est percussionniste, qui travaille avec nous sur une formation avec Antoine Boyer et Samuelito. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et là, moi, j'avais une grande envie de faire découvrir cette musique qui, pour nous, même si on a l'impression de la connaître, on la connaît pas vraiment. Mmh. Et là, donc, il avait proposé plusieurs spectacles, donc issus de ses différents répertoires. Et je lui ai demandé, écoute, non, là, ce qui serait bien, c'est qu'on commence par d'abord un peu de la tradition flamenco. Qu'on puisse découvrir, comprendre un petit peu toute cette culture. Donc il a concocté, parce que là, c'est vraiment très sympa et très chouette, parce que ça va être une première pour eux aussi. Bon, ils ont bossé dessus, hein, ils bossent dessus depuis un moment. Et ça va être le début aussi d'une jolie aventure avec eux. Parce qu'ils vont continuer ensuite ce projet en le déclinant, mais ça va être le début d'une aventure. Donc on se retrouve avec deux danseurs, danseuses, parce que c'est pas un couple, mais c'est un homme et une femme. Deux chanteurs, chanteuses. Un percussionniste, Carwan Manuel. Et puis un guitariste. Mais dans la tradition, mais et à mon avis, nous réserve quelques surprises. Ce sont des gens véritablement inclus dans cette tradition. Hein, mais là... Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on ne l'a jamais vu.
Oui, ça va être une grande première.
C'est une grande première.
Voilà, les 28 et 29 juillet à Saint-Laurent-du-Motay. Voilà, il reste des places, hein, je suppose.
Oui, malheureusement. Ouais. Mais oui,
mais
vous
êtes tous les bienvenus. Auditrices de Radio Campus Angers.
Oui.
C'est quoi, vous pourrez peut-être un peu une grille tarifaire, peut-être des tarifs réduits.
Oui, c'est 20 euros la soirée, 17 en tarif réduit, 32 le week-end avec les 4 spectacles et 25 les 4 spectacles en réduit.
Voilà, et donc voilà. Toutes les infos, c'est disponible sur votre site internet.
Sur le site, ouais, sur les réseaux, sur un peu plein de choses.
Voilà. Mais donc, n'hésitez pas, ça va être une belle soirées.
Ouais.
Véritablement, de fête.
Bon, on n'a pas le temps du tout d'en parler, mais je voulais quand même vous inviter à aller regarder également la programmation des 25 et 26 août au Château de la Barre. Ça va être exceptionnel. Ouais, peut-être un mot rapide. Vous avez une tête d'affiche exceptionnelle.
Oui, il y aura plein de choses. Il y aura Deep Forest, il y aura Jekyll Wood.
Voilà, Deep Forest.
Voilà, par exemple, un peu le grand Manitou de
la
Deep
House,
la musique électronique.
Mais oui.
Voilà, les grands débuts. Il y a de la danse, il y a de la batucada, il y a du rock punk celtique, il y a du cirque, des ateliers cirque, une exposition d'art, plein d'autres choses, voilà.
Plein de surprises.
Des cochons grillés.
Formidable. De toute façon, toutes les infos, on les retrouve sur votre site, évidemment, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu
merci
à nos questions sur les ondes de Radio Campus. On vous souhaite une bonne continuation des festivals et vive le foin dans les granges.
Eh oui, merci beaucoup.
Je vous propose qu'on écoute Méditation du Offswing Quintet qui sera donc présent le 28 juillet à Saint-Laurent-du-Motay à l'occasion du festival du foin dans les granges. Donc une reprise d'un grand classique d'opéra. On écoute ça tout de suite sur les ondes de campus.
Thank you.
continuer à écouter Méditation du Offswing Quintet. Évidemment, rendez-vous les 28 et 29 juillet à Saint-Laurent-du-Motet à l'occasion du festival du Foin dans les Granges.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
18h26 sur les ondes du 103 FM. Vous êtes toujours à bord du pédalo, l'émission d'actualité estivale du 103 FM. Tout l'été, partez à la découverte de festivals toujours plus durables. Les radios de la Corlab et de la Frappe vous font découvrir les lauréats des Bravo, des trophées imaginés par le collectif des festivals bretons, le réseau Éco-événements et le pôle de musique actuelle des Pays de la Loire qui se sont réunis pour valoriser ensemble les engagements des festivals dans la transition écologique et sociale. Aujourd'hui, rencontre avec le festival rennais Quartier d'été, mention spéciale Petit, moyens et grandes actions de la catégorie zéro déchet, un reportage de nos camarades et collègues de Canal B.
Bravo les Bravo. Les trophées qui récompensent l'engagement des festivals de Bretagne et de Pays de la Loire pour la transition écologique et sociale. Contribuons à la production de festivals toujours plus durables. Vous écoutez l'émission des Bravo à la rencontre des nouvelles dynamiques d'action pour des événements plus responsables. Lucien Vergès et Aurélie Massé, bonjour.
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 Je vous présente, vous êtes coordinateur du festival Quartier d'été, un événement qui revient chaque été à Rennes et qui est piloté par l'association 4 bis Information Jeunesse installée tout près de l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes. Je commence par vous laisser présenter cet événement en quelques phrases.
Quartier d'été, c'est un événement qui fêtera cette année son 30e été au Parc des Gailleuls. C'est un événement qui est monté pour et par des jeunes, qui à la base a été organisé pour les jeunes qui ne partaient pas en vacances notamment. Et l'idée de ce festival, c'est de créer deux jours de fête et d'information autour d'un village de l'info et puis des concerts le soir avec des esthétiques quand même plutôt autour du rap et autour de la danse. Voilà, c'est un festival qui est entièrement gratuit, qui est éco-citoyen, qui est solidaire. Et c'est un festival qui est donc mené par l'association Le 4 bis Information Jeunesse.
Combien de personnes sont mobilisées chaque année pour le faire exister ?
Alors du coup, il y a l'équipe de professionnels du 4 bis qui est entourée d'une équipe technique. Et il y a surtout 180 jeunes bénévoles à nos côtés qui sont là en amont et pendant toute l'organisation, puis jusqu'au démontage.
Quartier d'été fait partie des lauréats 2023 des Bravo. Les Bravo, ce sont des prix remis par le collectif des festivals pour saluer l'engagement pour la transition sociale et écologique. Vous avez reçu deux mentions spéciales que je vous laisse présenter.
Donc on a reçu une mention spéciale par rapport à la démarche globale autour du développement durable intitulée « Petits moyens, grandes actions ». La deuxième, c'était autour du zéro déchet, zéro plastique, avec la mention spéciale qui était pour et par les jeunes.
Je me permets d'ailleurs, grâce à Aurélie, notamment depuis ces 20 dernières années, on a le droit d'avoir cette mention, puisque Aurélie a beaucoup travaillé sur tout ce qui est autour du développement durable, et ça permet de se dire qu'on ne fait pas ça dans le vent, quoi.
Sur l'engagement global pour la transition écologique et sociale, vous suivez en fait 10 objectifs de développement durable d'un agenda de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ça va d'objectifs d'accessibilité à d'autres purement écolos, en passant aussi par des sujets d'impact sur le territoire. Je vous laisse peut-être vous arrêter sur deux des points sur lesquels vous travaillez beaucoup, à savoir les mobilités et l'accessibilité.
Alors sur les mobilités, on travaille cette année notamment sur un chantier avec le collectif des festivals et des festivals de toute la France, où le but c'est d'améliorer en fait l'accès des publics par des transports doux, actifs, on va dire qui polluent le moins possible, pour leur permettre d'arriver au site avec une mise en place d'un grand parking à vélo, des consignes pour les skateboards, les trottinettes, et puis on travaille avec Keolis sur les navettes. Et donc il y a 7 navettes qui ramènent le public dans les quartiers rennais et certaines communes de Rennes Métropole.
Sur les transports, nous on a fait le choix aussi de ne plus programmer des artistes qui viendraient en avion sur le festival. Pour deux raisons. D'abord, l'impact écologique que ces transports ont. Aussi, une question de budget de notre côté. Et on prend plutôt des artistes qui sont en tournée.
C'est une décision récente ?
Depuis 3 ans, oui.
On passe à cet autre objectif, objectif d'accessibilité que vous travaillez depuis un moment.
Gros sujet. Alors, d'abord, Il est effectivement gratuit, donc il est ouvert à toutes et à tous. Sur l'accessibilité pure pour les personnes en situation de handicap, on a mis en place une scène surélevée pour voir les concerts le soir. On peut mettre à disposition des gilets vibrants, des casques anti-bruit et puis des boucles magnétiques pour les personnes sourdes et pour les personnes malentendantes.
Sur la thématique gestion des déchets, pour laquelle vous avez eu une mention spéciale, mention par et pour les jeunes, vous avez mis plusieurs choses en place. Vous, votre particularité, c'est d'essayer d'investir les jeunes bénévoles dans la transmission de l'information.
Il y a un groupe constitué qu'on a nommé la team Tatou Trier, qui est accompagné par un professionnel du développement durable et de l'éducation populaire. Et le groupe s'engage pendant une semaine, donc il y a une formation, il y a la mise en place des bacs et du tri des déchets. Et ils vont faire tout le suivi pendant toute la semaine des bacs et en parallèle, ils vont animer des espaces pour sensibiliser le public au tri des déchets et aussi des ateliers autour du réemploi, de l'upcycling. On est signataire depuis 3 ans de la charte Drastic on Plastic, donc on fait en sorte d'avoir le moins de plastique sur le site. Donc on a la possibilité de boire de l'eau du robinet directement sur site. Au niveau des équipes à l'arrière du coup du festival, c'est pareil. Et sur la question du plastique, on va aussi tester cette année les colsons réutilisables.
C'est des petites lamelles de plastique qui permettent d'accrocher et de serrer très fort deux éléments ensemble. Par exemple, pour attacher 2 barrières ensemble. Et en fait, il y en a énormément sur tous les sites de festival.
Dans les années à venir, on fait quoi pour aller plus loin? Il y a beaucoup de pistes. S'il fallait résumer, c'est de poursuivre l'effort qui est déjà engagé.
D'abord, on consolide le festival parce que c'est pas forcément évident de continuer à mener notre festival gratuit dans le monde actuel. Donc là, on a lancé par exemple une grande campagne de dons, un mécénat populaire. Et puis après, sur les différents objectifs de développement durable, on consolide aussi ce qu'on fait déjà. L'année passée, on avait plus de bouteilles d'eau, excepté pour les artistes. Là, cette année, on va tenter de ne pas en mettre du tout, ni pour les artistes, ni pour personne.
Le festival, depuis le début, est inscrit dans les droits culturels de par sa construction. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de mieux accueillir des jeunes qui viennent de tout horizon. On accueille des jeunes primo-arrivants, des jeunes qui sont suivis par la PJJ ou qui sont en insertion sociale ou professionnelle ou qui ont juste envie de s'occuper pendant l'été. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir continuer à ce que le festival soit inscrit dans l'éducation populaire et les droits culturels.
C'était une émission réalisée par Lucie de la radio Canal B à Rennes.
Les Bravos est un projet mis en œuvre par le collectif des festivals bretons, le réseau Éco-Événements et le pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire. Une émission réalisée par la Corlab et la Frappe.
Un reportage à retrouver évidemment sur le site de la Frappe, lafrappe.fr et sur celui de la Corlab, corlab.org. Et le pédalo termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à bord du pédalo. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.